le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bonne journée dominicale. Merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du magazine des Nations Unies dont voici le sommaire. Les agences onusiennes sont présentes et agissent aussi dans la partie ouest du pays. Une délégation des communicateurs du système des Nations Unies revient de l'ex-province de l'Équateur où, pendant une semaine, elle a palpé du doigt les actions humanitaires et de développement entreprises par ces agences dans la nouvelle province de l'Équateur et du Nord-Ubangi. Vous suivrez dans cette édition un dossier avec l'envoyé spécial du magazine des Nations Unies, Honoré Missenga Kalala. Toujours en rapport avec cette mission de la délégation de l'ONU, l'invité de ce magazine, c'est M. Esso Essis, chef d'antenne MONUSCO Mbandaka. Il parle notamment des objectifs de sa mission comme antenne MONUSCO. Enfin, à Bunia, un pont relie désormais les quartiers Lumumba et Lembabo, un ouvrage réalisé par le contingent népalais de la MONUSCO. La population du chef-lieu de la province de l'Ituri et l'autorité locale saluent l'initiative et souhaitent voir d'autres réalisations.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Une fois encore, bonjour. Les agences des Nations Unies en RDC ne sont pas qu'actives dans l'est du pays. Elles le sont aussi dans la partie ouest. Du 3 au 10 juin 2016, une délégation des communicateurs du système onusien partie de Kinshasa a séjourné à l'Équateur et au Nord-Ubangi pour se rendre compte des réalisations humanitaires et de développement à l'actif des agences de l'ONU. Honoré Missenga Kalala a accompagné cette délégation et nous fait le point des grandes étapes de cette mission.
La délégation des agences onusiennes, forte de 14 personnes, était conduite par Florence Marshall, coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies à Kinshasa. L'objectif de la mission dans l'ex-province de l'Équateur était de montrer que les Nations Unies sont présentes et effectivement actives dans tous les territoires de la République démocratique du Congo, y compris ceux oubliés, et que les communautés locales de ces territoires sont bénéficiaires d'un certain nombre de services sociaux de base, aussi bien d'ordre humanitaire que de développement. D'abord en Mbandaka, chef-lieu de la nouvelle province de l'Équateur. Dans le secteur de la santé, l'OMS apporte un appui technique et financier dans la surveillance et les activités d'investigation des maladies potentiellement épidémiques comme le choléra. L'administration médicale de la province a reconnu l'importance de cet apport. En dehors de l'OMS, toujours en Mbandaka, le PNUD se signale dans les domaines des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, de la décentralisation et du développement local, notamment dans la construction et ou réhabilitation ainsi que l'équipement de quelques infrastructures. La liste des services rendus par les agences de l'ONU dans la ville et autour de Mbandaka s'allonge avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, notamment avec le programme Village et École Assainie, un programme qui s'inscrit dans une stratégie de développement auto-centrée autour des communautés et des familles. Enfin, toujours dans la province de l'Équateur actuelle, le PAM et la FAO sont également présents et actifs dans un projet conjoint sur l'axe Bikoro-Ingende, deux territoires nourriciers de la ville de Mbandaka. Il s'agit du projet P4P, Achat pour le progrès, un projet d'appui aux petits producteurs agricoles. Reste l'étape de Badolité et ses environs dans la nouvelle province du Nord-Ubangi. Ici, la délégation de l'ONU partie de Kinshasa a visité le site de Inke, à 45 km de Badolité, un site qui accueille depuis juin 2013 des réfugiés centrafricains, évalués ce jour à plus de 20 000 personnes. Le ACR et le PAM font tout ce qu'ils peuvent pour rendre acceptables les conditions de vie de ces personnes dans et autour de ce site. Chef de la délégation, Florence Marshall, donne son impression et tire les leçons de cette mission.
Alors je crois que déjà l'objectif de la mission a été atteint. L'objectif du groupe de communication, lorsque on a regardé la carte de la RDC et on s'est dit où organiser le voyage de presse annuel, celui de 2016, finalement le Grand Équateur ou l'ex-province de l'Équateur s'est imposé parce que l'idée c'était de montrer, de pouvoir premièrement emmener les journalistes dans des endroits où ils n'ont pas l'habitude d'aller ou n'ont pas l'occasion d'aller parce que ce sont des endroits enclavés. Et deuxièmement, montrer que les Nations Unies interviennent partout en RDC. Donc effectivement, à Bandaka, on a vu des projets de développement avec les écoles, villages assainis, les achats pour le progrès. On a eu aussi l'occasion de visiter la prison qui est une des activités de monitoring des droits de l'homme de la MONUSCO. Et puis la partie Badolite était une partie plus humanitaire avec les réfugiés et les communautés d'accueil. Alors c'était l'occasion, cette visite, pour nous de voir beaucoup de choses, mais aussi pour les personnes que nous sommes allés visiter, de faire un petit peu la liste de ce qui va et de ce qui ne va pas. Je pense que c'est le rôle des médias d'être les porte-parole de toutes ces personnes qui n'ont pas accès en temps normal aux médias. Donc c'est notre rôle. Après, c'est pas les journalistes qui vont pouvoir résoudre les problèmes, mais enfin, ils vont pouvoir les mettre sur la place publique. Par exemple, on s'est rendu compte qu'à Badolite, et ça c'est un problème qui affecte les Nations Unies indirectement, où il n'y a pas d'électricité depuis 4 mois, pour une histoire de panne, une pièce qui manque, que sais-je encore. Et ça, c'est aussi le rôle des journalistes de raconter ça en espérant interpeller. Il y a aussi une grosse partie de plaidoyer à l'issue de ce voyage, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'effectivement, il y a des actions qui sont faites, mais qui parfois semblent un petit peu des gouttes d'eau dans l'océan. Et à nous tous, de faire un plaidoyer pour qu'il y ait plus d'intervention à la fois du gouvernement central et aussi des Nations Unies.
De retour de Mbandaka et Badolite, Honoré Missenga Kalala, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
En matière de protection des enfants, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a proposé 3 initiatives pour l'amélioration de la situation des enfants en RDC. C'était lors du dernier sommet mondial humanitaire tenu du 23 au 24 mai 2016 à Istanbul, en Turquie. Nous revenons encore sur ces sujets avec l'entretien que Madame Brigitte Pedro, responsable des urgences à l'UNICEF RDC, a eu avec Jean-Pierre Elali.
Madame Brigitte Pedro, bonjour.
Bonjour.
Le sommet humanitaire mondial vient de se tenir à Istanbul, à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies. Votre agence a pris part à cette rencontre. Que pouvons-nous retenir lors de la participation de l'UNICEF à ce forum?
Tout d'abord, on va essayer de remettre dans le contexte du forum, quels ont été un peu les objectifs de ce forum, et après on regardera un peu fait la partie UNICEF. Mais... Donc au niveau du forum, il y avait 4 points sur lesquels il fallait, je dirais, un certain nombre de discussions. La première concerne la prévention et la résolution des conflits, pour lequel aujourd'hui 80% de l'aide est canalisée pour financer la réponse à ces conflits. La deuxième, c'est renforcer la protection des civils et les droits de l'homme, principalement, pour éviter que effectivement ces populations affectées soient le plus sous des attaques perpétrées par l'ensemble de ces groupes. Et aussi renforcer l'application des lois internationales et les droits humains qui sont aujourd'hui pas toujours bien appliqués. Le troisième point, c'est de ne laisser personne derrière, donc prendre en compte toutes les vulnérabilités, toutes les personnes qui sont affectées. Ensuite, je crois que ce sommet a permis effectivement de mettre en avant le lien entre urgence et développement et de renforcer en fait le fait que ces acteurs doivent mieux coopérer pour pouvoir avoir des stratégies à long terme et de solutions durables pour pouvoir répondre à ces populations en détresse et en conflit. Et enfin, effectivement, et c'est un peu ce que je disais, c'est qu'il va falloir effectivement renforcer ces mécanismes de financement, voir un peu d'autres mécanismes qui vont permettre de construire des structures plus stable et d'avoir des sociétés beaucoup plus inclusives qui vont pouvoir se développer. Alors après, plus spécifiquement sur UNICEF, on a effectivement lancé un appel principalement autour de l'éducation qui est aujourd'hui un des éléments les plus faibles dans la réponse humanitaire. Donc c'est l'appel qui s'appelle Education Can't Wait, Cannot Wait, donc l'éducation ne peut pas attendre et sur lequel effectivement il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en place.
Alors est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative parce qu'il y en avait 3, est-ce que vous pouvez nous parler de l'éducation ne peut pas attendre?
Il y a effectivement 3 initiatives. Il y a l'éducation ne peut pas attendre, qui doit permettre l'accès à l'enseignement des enfants et aussi faciliter le travail des enseignants sur le terrain. Donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième initiative, ça concerne aussi la protection des enfants dans les écoles et dans les hôpitaux, qui sont souvent la cible à la fois des groupes armés, mais qui est aussi un environnement protecteur pour les populations déplacées. Et donc, c'est des espaces sur lesquels les enfants sont exclus parce qu'ils ne peuvent plus avoir accès à l'éducation. La dernière initiative, c'est effectivement de mettre fin humain, à la souffrance des enfants, donc pas uniquement lié à la question de l'éducation, sur toutes les crises qui affectent les enfants, que ce soit l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à la protection, l'accès à l'eau, l'hygiène, l'assainissement, l'accès à des soins de santé primaire, la nutrition.
Justement, vous parlez des crises. En RDC, près de 4 millions d'enfants sont touchés par ces conflits. Et ces conflits ont exactement un impact sur la scolarité de l'enfant en République démocratique du Congo notamment. Quelles sont, madame, les priorités dans le programme éducation dans les urgences en ce qui concerne justement l'enfant congolais?
Alors, je voudrais aussi mentionner qu'on a un partenariat avec le gouvernement, avec le ministère de l'Éducation. Et alors, qui est notre partenaire aussi dans la réponse à l'éducation en urgence? Donc ça, c'est important aussi de mentionner qu'on est, partenaire du gouvernement, donc dans le cadre d'une approche multisectorielle, donc qui permet à la fois de garantir la scolarisation des enfants donc qui sont affectés par les crises, et on focalise principalement sur les plus vulnérables quand ils sont déplacés ou lorsqu'ils sont membres d'une communauté d'accueil. Le deuxième volet, c'est la protection des enfants via l'organisation d'activités qui contribuent à leur bien-être psychosocial et au renforcement de leur résilience. Troisième point, c'est l'amélioration de la qualité de l'éducation via le renforcement des capacités des enseignants, des comités de parents, la mise à disposition de matériel scolaire et de support pédagogique, l'amélioration des conditions d'apprentissage et la mise en place du mécanisme de redevabilité envers les bénéficiaires. Donc ça, c'est des mécanismes qui sont effectivement synergiques et existent entre l'éducation et les autres secteurs. Alors, ce programme, en fait, vise 200 000 enfants, donc qui sont aujourd'hui, j'irais, ciblés par UNICEF dans son appel aux urgences pour la RDC en 2016, sachant que ça ne contribue pas à l'ensemble de la réponse, parce que les besoins sont à peu près pour 700 000 enfants dans le pays. Mais bon, UNICEF est aussi le cluster lead de l'éducation, et donc avec ses partenaires des autres clusters, on essaye de combler, le gap pour atteindre au moins 700 000 enfants à travers du pays, principalement donc à l'est de RDC, mais y compris aussi les réfugiés burundais et les réfugiés sud-soudanais et les réfugiés centrafricains qu'on a aujourd'hui sur l'ensemble du territoire.
Et selon une analyse, madame Brigitte Pedro, 4 écoles ou hôpitaux sont détruits ou occupés par les groupes armés dans le monde. En RDC, 824 écoles ont été détruites ou endommagées suite au conflit. Quelle a été alors la requête de l'UNICEF au sommet d'Istanbul pour améliorer la situation?
Effectivement, ce point-là est dans l'appel numéro 2 de UNICEF sur justement la protection des enfants dans les écoles et dans les hôpitaux. Et effectivement, on déplore qu'en RDC, 824 écoles ont été détruites ou endommagées, principalement à l'est de la RDC. On a un programme de reconstruction qui est en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'éducation en urgence, où effectivement on remet à niveau les infrastructures scolaires. On a un programme même au sein de UNICEF qui contribue fortement à ces dimensions-là, c'est le programme de réponse rapide au mouvement des populations, qui a un volet éducation sur lequel il y a à la fois la reconstruction des infrastructures, mais aussi l'accompagnement sur l'enseignement, l'accompagnement des enfants pour qu'ils puissent étudier dans un environnement sain et protecteur. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que l'importance de l'éducation au sein d'UNICEF, si on regarde sur les 20 ans qui viennent de se passer en RDC de conflit, on peut se dire qu'on a presque une génération perdue d'enfants qui n'a pas été éduqués et sur lesquels il faut vraiment qu'on remette l'investissement dans les années à venir si on ne veut pas qu'une autre génération encore soit une génération perdue d'enfants qui ne soient pas éduqués.
Madame Radio Capi, vous remercie.
Merci bien.
C'est avec l'UNESCO que nous ouvrons cette page. Le bureau de cette agence onusienne à Kinshasa a organisé en début de semaine une réunion d'échange pour la promotion de l'histoire générale de l'Afrique. La rencontre a réuni notamment les ministres du tourisme, de la culture et des arts, de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que de l'enseignement primaire et secondaire. L'artiste musicien Ray Lema a également été associé à ces forums. Ce dernier a été désigné par la directrice générale de l'UNESCO comme porte-parole de la Coalition mondiale des artistes pour la promotion de l'histoire générale de l'Afrique. Partenariat UNPOL-PNC, 859 cadres et agents de la police nationale congolaise, dont 111 femmes formées et recyclées dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Kasaï Oriental et Haut-Katanga. Ces formations et recyclages s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des projets exécutés par l'OIM, des projets financés par les gouvernements américains et canadiens. Dans cette série de formations, du 25 mai au 1er juin dernier, des officiers UNPOL ont conduit des exercices pratiques en maniement d'armes et en technique d'autodéfense au profit des stagiaires de la police nationale congolaise.
magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité de ce dimanche, je l'ai dit dans le sommaire, c'est le chef d'antenne de la MONUSCO Mbandaka, M. Esso Essis. Esso Essis a accompagné de Mbandaka à Gbadolité la délégation onusienne partie de Kinshasa, partout où elle est passée, pour voir les réalisations humanitaires et des développements accomplis par les agences des Nations Unies dans cette partie du pays. Il était notamment sur les sites des Inke, à 45 km de Gbadolité, un site qui héberge plus de 20 000 réfugiés centrafricain. C'est là qu'il a accordé jeudi dernier un entretien à Honoré Missenga Kalala. Suivez.
Monsieur Esso Essis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef d'antenne MONUSCO Équateur. C'était avant tout un bureau MONUSCO. Quelle est la différence entre antenne MONUSCO et bureau MONUSCO?
Je vous remercie de cette opportunité que vous me donnez de parler de notre antenne, de l'antenne de la MONUSCO à Mbandaka. Cette antenne couvre, comme vous l'avez dit, l'ensemble du territoire de l'ancienne province de l'Équateur, qui est aujourd'hui subdivisée en 5 provinces différentes. À la question de savoir qu'est-ce qui différencie une antenne d'un bureau, je répondrai en disant que l'antenne est le résultat de la reconfiguration de la mission du mandat de la MONUSCO, qui a entraîné donc un mouvement de l'ouest vers l'est des ressources de la MONUSCO en vue de mettre la priorité sur la neutralisation des groupes armés et la restauration de l'autorité de l'État dans cette région qui était celle qui restait la plus problématique. Donc, au titre de cette reconfiguration et du mouvement de l'ouest vers l'est, la MONUSCO s'est retirée de 6 des anciennes provinces sur les 11 qui existaient à l'époque. Et donc, dans ces 6 provinces où les bureaux ont fermé, la mission a créé une antenne pour assurer un certain nombre de fonctions résiduelles qui permettraient donc de maintenir un contact minimum avec la population, avec les autorités, avec les agences du système des Nations Unies, avec tous les partenaires provinciaux et locaux de la MONUSCO. Ainsi donc, pour parler de la différence entre une antenne et un bureau, vous constaterez que les bureaux qui existent encore ont à leur disposition un certain nombre d'éléments de la force des Nations Unies, d'observateurs militaires, une quantité importante de personnel en matière de police des Nations Unies et également des services de soutien. Et donc, dans les bureaux, aujourd'hui, on s'occupe principalement de la protection des civils. On s'occupe également de la restauration de l'autorité de l'État. Il y a donc un grand nombre d'activités et de ressources.
Quels sont les objectifs d'une antenne?
Dans une antenne, nous faisons essentiellement du monitoring. Nous sommes un peu décrits comme les yeux et les oreilles de la mission. Et notre mandat est d'observer toutes les tendances, tous les développements au niveau politique, au niveau sécuritaire, au niveau économique, socio-culturel, qui ont une propensité à entraîner des conséquences défavorables, négatives, sur la paix et la sécurité dans la région. Ça inclut également les activités qui se passent dans les autres pays, comme ici, nous sommes limitrophes de deux pays. Et donc, s'il y a des développements en termes de sécurité, en termes de conflits politiques ou conflits fonciers qui entraînent un afflux de réfugiés de ce côté de la frontière, notre mission est de rapporter à notre autorité, à notre hiérarchie, afin que des mesures adaptées puissent être prises. Donc, fonction essentiellement de monitoring sécuritaire, de monitoring des violations des droits de l'homme afin d'y apporter des remèdes et de lutter contre l'impunité. Mais également, il y a une fonction de coordination avec les agences du système des Nations Unies pour assurer que l'action des Nations Unies dans la région est cohérente et porte un fruit de manière synergistique.
Oui, vous êtes basé à Mbandaka, le chef-lieu de la nouvelle province de l'Équateur. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire ce monitoring et toutes les autres activités à partir de Mbandaka en couvrant tout le reste de l'ancien Équateur? Est-ce que c'est possible de couvrir le nord Ubangi, le sud Ubangi, la Mongala et la Tchouapa?
Oui, à première vue, ça semble être une tâche titanesque. Cependant, dans l'esprit qui a dirigé à la création de l'antenne, il ne s'agit pas forcément d'avoir des membres du personnel de la MONUSCO présents dans tous ces endroits pour pouvoir faire ce monitoring et ce reporting. Il s'agit, pour nous, le staff de l'antenne, de contacter un grand nombre de partenaires dans chacune des quatre autres provinces ainsi que Mbandaka, d'avoir un nombre suffisant de partenaires qui, par des contacts téléphoniques essentiellement ou par des échanges de toutes sortes, peuvent nous informer sur les choses qui se passent là-bas. Et jusqu'à présent, je pense que notre système de collecte d'informations et de transfert de cette information fonctionne assez bien. Il reste bien sûr des défis résiduels liés notamment au problème de présence du réseau de communication dans certaines des nouvelles provinces. Je pense principalement à la Mongala et à la Chuapa, où parfois il n'y a pas de réseau. Quand il n'y a pas de réseau, vous ne pouvez pas communiquer avec vos partenaires, ils ne peuvent pas vous donner d'informations.
Et vous faites quoi en ce moment-là ?
À ce moment-là, on attend, on essaye d'utiliser tous les moyens possibles pour rentrer en contact avec nos partenaires et recevoir l'information, ou parfois on reçoit l'information en retard et on la relaie quand même vers l'autorité qui a besoin d'en connaître. Un autre problème important, c'est l'accessibilité même de ces zones, parce que les routes ne sont pas forcément en bon état, nos véhicules ne sont pas en bon état non plus. Déjà, pour rallier Mbandaka, nous n'avons plus de vol Monusco, donc nous profitons des vols humanitaires qui joignent Mbandaka 3 fois par semaine, ce qui n'est pas mal du tout, mais également pour nous projeter vers l'intérieur de la zone de responsabilité, c'est parfois difficile. Ainsi, par exemple, la mission que nous voulons entreprendre bientôt pour faire le monitoring de la situation sécuritaire et des droits de l'homme dans la province du Nord Ubangi va nous prendre forcément 5 jours, alors qu'on aurait pu faire ce travail en 3 ou 4 jours, mais parce que nous devons compter le fait qu'il faut prendre un jour pour voyager, prendre un jour pour revenir, et entre les deux, il n'y a qu'un jour au milieu où le vol va venir. Donc, ça nous crée quelques petits problèmes. Donc, vous voyez la régularité de ce genre de mission. Parce que si vous faites du monitoring à distance comme nous faisons, il est bon que parfois, à des intervalles relativement raisonnables, on puisse se rendre quand même sur place pour constater, toucher, palper du doigt les réalités de terrain. Et jusqu'ici, nous n'avons pas toujours eu l'occasion de faire ce travail. Donc c'est ça que nous considérons comme des défis importants, en dehors du fait, bien sûr, que nous avons un nombre très limité de staff de la MONUSCO qui ne couvre pas forcément tous les besoins en matière de monitoring et de reporting.
Monsieur Essou Essis, merci de votre disponibilité pour Radio Capi.
C'est moi qui vous remercie de cette opportunité d'expliquer ce que la MONUSCO fait et surtout ce que cette antenne qui reste avec nous ici dans le Grand Équateur contribue donc à la résolution des problèmes quotidiens des Congolaises et des Congolais.
Le gouverneur de province de l'Ituri a inauguré à Bunia la semaine dernière un pont d'une capacité de 4 tonnes. Ce pont relie les quartiers Lumumba et Lembabo, non loin du marché central de Bunia. Le maire intérimaire de cette ville a salué la construction de cet ouvrage réalisé par le contingent népalais de la MONUSCO. Reportage de Delvin Waisala Yafunga.
C'est vers 11h que le gouverneur de la province de Ituri a coupé le ribas symbolique pour officiellement autoriser le passage sur ce pont qui est jeté sur la rivière Nyamukau. Et c'est à la grande satisfaction des bénéficiaires. Témoignage.
Nous avons beaucoup souffert ici pour passer, mais maintenant ça va. Nous sommes contents du travail réalisé par la MONUSCO. J'habite non loin de ce pont. Je réalise que la MONUSCO a fait un bon travail pour nous aider. On se démerdait ici pour traverser la rivière. Mais il faut que ces contingents puissent élargir encore davantage ce pont pour que le gros camion puisse également passer par ici. Mais il irait bien à nous aussi de bien protéger cet ouvrage.
Au nom de ses administrés, le maire de la ville de Bunia salue les gestes humanitaires posés par la MONUSCO qui appuie le gouvernement. Ferdinand Fimbo-Lebidier.
Ça va aider les élèves, aider les taximens et la population, non seulement des deux quartiers, mais aussi d'autres quartiers qui fréquentent le marché central, qui vont à l'église. Je pense que c'est d'un intérêt qui est trop grand pour nous. Raison pour nous de remercier la MONUSCO et son contingent, surtout népalais, pour son professionnalisme. Et j'espère que ce projet, nous allons nous l'approprier parce que c'est d'un intérêt très capital pour nous. Nous allons continuer à les garder et à les garder encore davantage. Mais tout ce que nous allons demander, que cet ouvrage soit surveillé par nous tous. Population des quartiers Ngezi, population des quartiers Lumumba.
Même sans des satisfactions du côté du gouverneur de la province de l'Ituri, Jefferson Abdallah Penembaka.
La construction d'un pont, surtout de ces ponts, nous permet de relier deux quartiers de grande importance. Et la construction de ce pont n'est pas un mur entre deux peuples, mais pratiquement un trait d'union qui vient d'être mis pour que le peuple ou bien la population de Ngezi entre facilement en contact avec la population de Lumbabo et vice-versa. Nous lançons un appel aux autres agences du système des Nations Unies, aux autres contingents et à la MONUSCO, que ça ne soit pas donc la dernière œuvre.
Bounia Delve, Waïsala, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Suivez maintenant cette question posée à partir des Goma sur la mort d'un staff humanitaire intervenu le 6 mai 2016, ainsi que la réponse de M. Yvon Edoumou du bureau OCHA RDC à Kinshasa.
Albert Tulinabo du journal Le Peuple Souverain. Il fallait attendre la mort d'un travailleur humanitaire le 6 mai dernier pour dénoncer les attaques contre les humanitaires. Alors que vous avez observé depuis le début de 2016, 11 travailleurs enlevés. Merci.
Ce qu'il faut dire, c'est que effectivement depuis 2015, la situation sécuritaire est très inquiétante. Mais le travail que nous faisons par rapport à avoir des garanties sur l'accès, nous ne le faisons pas tout le temps dans le domaine public. C'est un travail qui est fait avec les autorités provinciales au niveau de Kinshasa. Il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de réunions, beaucoup de dialogues qui est fait. Donc il faut comprendre que lorsque nous, humanitaire, c'est pas vraiment dans nos styles. Lorsque nous venons devant la presse, c'est qu'il y a vraiment un certain ras-le-bol, un niveau de frustration qui commence à être au-delà de la norme et on veut le porter à la connaissance de tous. Voilà, donc on n'a pas forcément attendu le plaidoyer pour la protection non seulement des humanitaires mais aussi des personnes civiles qui sont en fait beaucoup plus importantes que nous, se fait de façon continue avec les autorités.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Oui, je m'appelle Mbaïssa Diop, je suis de nationalité sénégalaise, je suis policier, marié et père d'une fille de 15 ans et je suis arrivé au Congo depuis le mois de décembre 2014. Avant de rentrer dans la police, j'ai eu à faire des études dans ma ville natale Saint-Louis. J'ai eu déjà l'entrée en 6e qui m'ont ouvert les portes du lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Et après un bac en lettres, j'ai été orienté à Dakar, la capitale du Sénégal, pour faire des études en philosophie. Là, j'ai pu obtenir une maîtrise en philosophie, ce qu'on appelle maintenant le master, et un CS en psychologie. Et c'est en 92 que je suis rentré dans la police pour devenir inspecteur de police. À l'époque, c'était notre nomination. Et ici, ce que je fais, je suis policier des Nations Unies. Et depuis mon arrivée, j'ai travaillé dans le bureau de l'information publique de la police. D'abord comme agent. Et depuis le mois de février, je suis devenu le chef de ce bureau-là. Avant d'arriver dans les Nations Unies ici au Congo, je peux vous dire que j'ai d'autres expériences des Nations Unies. J'ai été d'abord en Haïti en 2005 comme policier des Nations Unies. J'ai été au Timor Oriental cette fois-ci. C'était une mission anglophone que je devais faire au Timor Oriental. Là aussi, c'était comme policier. Quand j'arrive au bureau le matin, je traque d'abord les belles photos pour montrer l'image de ce que la police de la MONUSCO est en train de faire, des photos que je distribue jusqu'au HFU de New York pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, en dehors de cela, je traque aussi l'information pour savoir qu'est-ce que les Congolais et les autres pensent de la police MONUSCO. Au-delà de la police MONUSCO, nous allons aussi surveiller l'image de nos partenaires, la police nationale congolaise. Dans la journée, il y a d'autres tâches qui m'attendent, qui souvent me sont données par les chefs, que je suis obligé de faire. Je fais des flyers, des présentations pour permettre à nos visiteurs de savoir qu'est-ce que nous faisons et comment nous le faisons. En dehors de ça, ici, c'est vrai que c'est ça que je fais, mais c'est un travail dont je suis déjà habitué au Sénégal parce que avant décembre 2014, quand je venais, j'étais le conseiller en communication du ministre de l'Intérieur du Sénégal. Un poste que j'ai occupé depuis 2011. Mes temps libres ici, souvent je suis à la maison, à lire comme tout bon philosophe. Journaliste, j'écoute la radio, je suis la presse parce que j'ai envie moi de m'informer pour faire comme Hegel. Le matin c'est d'abord ma prière, c'est pas le musulman que je suis, c'est pas aller à la mosquée, mais c'est d'abord m'informer, avoir la bonne information. En dehors de ça, je suis quelqu'un qui est un adepte du sport, j'adore suivre le foot. Le basket, la boxe qui a été le sport que j'ai pratiqué en premier. Et je vais vous dire, s'il y a aujourd'hui un repas que je préfère, c'est un repas sénégalais que certains d'entre vous certainement ont dû connaître, le tchéboudienne. C'est du riz au poisson, mais typiquement sénégalais. Je sais que quand j'étais à Goma, à chaque fois que nous organisions une fête, les Goma traciens nous demandaient aussi de leur servir de ce repas. Donc je pense que c'est mon repas préféré. Et la musique, je suis beaucoup plus zouglov qu'autre chose. En dehors de ça, si je dois lire, j'écoute du jazz, du Mike Davis. C'est vrai que quand on a une expérience dans les Nations Unies, on a envie d'y rester, mais Dieu a déjà, lui, son chemin tracé. Et je dis, je reste au Seigneur l'opportunité de me mener là où il a envie de me mener.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Notez dans votre agenda ces trois dates pour la semaine qui commence. Le 14 juin, journée mondiale du donneur des sangs. Le 15 juin, journée mondiale des sensibilisations à la maltraitance des personnes âgées. Le 17 juin, journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. C'est la fin de cette émission et merci de votre attention. Honoré Missenga Kalala, qui revient de l'ex-province de l'Équateur, a coordonné et réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. À la mise en onde, c'était Alain Goy. Moi, c'est Lucie Ambanzemboula. J'étais à la présentation. Vous pouvez réécouter cette émission en allant sur le site www.radiokapi.net. Une fois encore, merci et à dimanche prochain à la même heure.